So we would like to greet everybody this wonderful Sunday morning.
Nous voulons saluer tout un chacun en ce merveilleux matin de dimanche. Souvent, nous avons parlé en introduction des réunions du dimanche matin. Souvent, nous disons, nous avons besoin du Seigneur pour la semaine à venir, parce que lui sait, rien n'est caché à ses yeux, lui connaît toutes choses et sait ce que la semaine nous réserve, la semaine à venir. Alors laissez-moi regarder à ces choses sous un angle différent. La parole de Dieu est comme un miroir. Et alors que nous écoutons la prédication, comme nous allons le faire ce matin, c'est alors une occasion aussi de regarder la semaine passée en arrière et également notre vie passée et de les examiner à la lumière de la parole de Dieu, dans le miroir qui est la parole de Dieu. Et alors, nous pouvons évaluer ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, ce que nous avons pensé, quels étaient les motifs, les intentions de nos cœurs, et les comparer aux standards de la parole de Dieu. Alors, prions. Seigneur, nous inclinons devant toi, Père Céleste. Père, Esprit Saint et Fils, Dieu en trois, que tu puisses oindre le serviteur qui apportera ta parole. Et par ton Esprit Saint, que tu puisses souffler, tu puisses donner souffle de vie à la parole. Que cette parole puisse devenir vivante dans nos cœurs, dans nos esprits. Que nous puissions entendre ta voix. Et que par là, tu puisses glorifier ton nom. Nous te remettons toutes choses. Aussi le message par les chants, la lecture de ta parole, tout, nous te les remettons, nous te les remettons entre tes mains, et que tu puisses bénir toutes choses. Amen. Deux annonces avant de continuer. La première, et que nous, dimanche prochain, nous aurons les funérailles. Donc, l'enterrement de Madame Zenta Engelbrecht, plus connue pour nous comme Auntie ou Tante Zenta. C'est la femme de Werner Engelbrecht. Donc, l'enterrement aura lieu dimanche prochain. Une autre annonce par rapport à des semences qui vont être distribuées. Si Dietmar peut venir et nous en dire plus par rapport à cela. Une fois que Dietmar a terminé, nous laisserons la place à la chorale et quand la chorale aura fini les chants, nous laisserons directement la place à la personne qui nous apportera la prédication. Merci. Merci pour cette occasion de parler. Si le Seigneur nous garde, s'il nous donne vie jusque-là, le dimanche, dans 15 jours, au dimanche en 15, Oncle Erlo nous a demandé de faire une distribution de semis. Parce que Oncle Erlo nous a toujours encouragé à planter et à utiliser la terre, à planter des plantes, des légumes. Alors enseignez ces choses à ses enfants, à vos enfants. C'est une bonne chose que nous apprenions cela. Si nous ne le faisons pas nous-mêmes, personne ne va le faire pour nous. Alors, on peut vous aider au départ. C'est pour ça qu'on vous propose de vous donner ces plans. Et après, à vous de continuer. Alors c'est pourquoi on vous enseigne, on vous demande, on dit préparer le sol, enlever, désherber, préparer, relabourer. Vous pouvez mettre du compost, de fumier, pour que lorsque vous recevez les semis, alors vous pouvez les planter directement. Vous avez préparé la terre. Donc, dans 2 semaines, vous pouvez amener un sac plastique et qu'on puisse vous donner ces plants. Et alors, vous pouvez les mettre dans le sac que vous aurez ramené. Pensez, si vous plantez et qu'un jour il y a une famine, alors vous aurez planté, vous aurez de quoi manger et de donner à vos enfants. Il y a longtemps, Oncle Erlo nous a encouragés à planter des arbres, des macadamia, des noix de macadam. Et vous pouvez planter aussi la papaye. Souvenez-vous pas là où il y a du gel. Et vous pouvez planter des choses. Frères et sœurs, plantez, ne soyons une lumière pour la nation, pour les autres, afin que nos voisins, notre entourage voient comment faire les choses. Alors, préparez le sol, ramenez du compost et avant, priez, mettez-vous à genoux et demandez au Seigneur de bénir votre travail. Laissez la place à la chorale maintenant. Nous allons chanter 3 chants. Le premier sera en allemand. Chant qui cite le psaume 27. Le Seigneur est ma lumière. Qui craindrai-je? Même si les ennemis se présentent, je ne crains pas, car le Seigneur est avec moi. Une chose que je demande, Seigneur, c'est que je puisse rester constamment, tous les jours de ma vie, dans ton sanctuaire. Troisième chant sera un chant zoulou qui parle de l'amour de Dieu. Dieu qui a envoyé son Fils pour mourir ici sur la terre pour sauver, nous sauver du péché, et c'est pourquoi nous voulons donner et consacrer notre vie au Seigneur et aussi le remercier pour son sacrifice.
Lisa, 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 Lisa. Everyone here this morning.
J'aimerais saluer tout un chacun ce matin. Je me rappelle dans l'assemblée dans laquelle nous avons grandi, le prédicateur avait une certaine habitude, parce que c'était une église, vous savez, où il y a une chaire qui est assez élevée, où vous accédez par des marches. Donc la tradition, dans cette église voulait qu'il monte la moitié des marches et qu'il prie. Alors ce matin, j'ai cette impression que à la moitié des marches, il faudrait s'arrêter, s'agenouiller et prier. Pour que je puisse prier et dire, Seigneur, donne-moi, accorde-moi ce dont j'ai besoin pour parler. Mais avant de continuer, j'aimerais demander qu'on joue un clip audio. C'est un clip, un extrait d'une prédication de Pasteur Stegen lorsqu'il était jeune. Et je vais vous lire ensuite l'histoire et la raison pour laquelle j'ai souhaité faire jouer ce morceau audio, si les techniciens... Maintenant, je vais utiliser un mauvais mot, excusez-moi, si je le fais, oublie ta foi, oublie un moment, pour un moment, ta foi, oublie. La foi est une chose étrange, plus... on la considère, plus elle devient petite, plus elle diminue. Mais plus tu regardes au Seigneur Jésus, plus ta foi grandit sans que tu t'en rendes compte, sans que tu réalises vraiment. Donc, le Seigneur nous rappelle et dit, souviens-toi, et fais garde, prends garde qu'il n'y a rien entre toi et le Seigneur, que ta relation avec lui soit brisée. Ma fonction n'est pas de prêcher l'évangile, de faire des miracles, de sauver des âmes, mais de faire sa volonté. Et sa volonté, pour moi, est qu'il n'y ait rien dans notre relation, que notre relation ne soit pas brisée. Pas une mauvaise pensée, pas une mauvaise parole. Dès qu'il y a quelque chose entre toi et le Seigneur, repens-toi. Prie que le Seigneur, que ta relation avec le Seigneur soit parfaite. Peut-être certains viennent disent en disant « Ah, le miracle, quand il est arrivé, est-ce que tu étais conscient d'avoir une foi spéciale ?» Non, je n'avais même pas réfléchi à cela. Est-ce que tu étais conscient de ta foi ? Non. Non, quand on vient... voir comme on voit voir le Seigneur, comme un enfant vient voir son Père en lui demandant quelque chose. Jésus est tout-puissant, tout pouvoir lui a été donné. Et c'est lui qui devrait être la principale dans notre vie. Et ne devrions pas avoir les mains et les pieds liés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas blesser quand nous atteignons l'Esprit du Seigneur. C'est comme si nous lions ses mains, ses pieds, nous fermons sa bouche, et alors le Seigneur, l'Esprit Saint, ne peut pas agir. Ne le traitons pas de cette manière. Assurons-nous qu'il n'y ait rien dans notre vie qui attriste l'Esprit Saint, afin qu'il n'y ait pas de limite à ce que l'Esprit Saint peut faire. Si ce n'est que nous, nous l'empêchons d'agir, son esprit va de ci, de là, en cherchant un homme, une femme, dans qui il peut agir, avec qui il peut agir. Que le Seigneur nous accorde la grâce que nous soyons cette personne. Le Seigneur lave le monde pour être retourné en un jour. Et si ce n'est pas le cas, si nous n'avons pas cette foi, alors c'est le monde qui nous retourne. Alors, est-ce que vous avez entendu? L'occupation principale n'était pas de prêcher, de sauver des âmes, mais d'avoir une relation claire avec Dieu, d'avoir une relation pure entre lui et le Seigneur. Et si quelque chose devait arriver, il a dit... Repens-toi, repens-toi rapidement de cette chose. Parce que nous faisons effectivement des erreurs, mais repentons-nous rapidement de ces erreurs. Et j'ai pensé à ce passage lorsque j'ai lu l'histoire suivante. Dans les forêts du nord de l'Europe et de l'Asie, vit un petit animal qui s'appelle l'hermine. Un animal qui est connu pour avoir la fourrure blanche comme la neige. Et c'est un animal qui s'assure constamment de garder sa fourrure blanche, immaculée, pour se fondre dans la neige. Ceux qui chassent pour tuer... Ceux qui chassent ces hermines utilisent la chose suivante pour attraper cet animal. Ils ne font pas de piège, mais ils cherchent le repère de l'hermine, qui en général a son nid ou son domicile au creux d'un rocher ou dans une falaise. Et alors, ce que font les chasseurs, ils aspergent de saleté, de poussière, l'entrée du repère. Et alors, les chasseurs lâchent leurs chiens pour partir à la recherche de l'hermine. Et l'hermine, une fois effrayée, s'enfuit et veut fuir des chiens. Mais arrivée au repère, à son trou, elle ne rentre pas dans le trou à cause de la saleté présente. Plutôt que de souiller sa fourrure, l'hermine se laisse attraper par les chiens, afin de ne pas souiller sa fourrure, parce qu'elle veut garder, sa préoccupation est de garder sa fourrure immaculée, sans tache. Donc l'hermine est prête à mourir, à se laisser attraper par les chasseurs, plutôt que de salir sa fourrure. Pour l'hermine, la pureté de sa fourrure est plus importante que sa propre vie. La pureté de sa fourrure est plus importante que la vie. Et combien si souvent nous oublions cela? Si souvent nous arrivons à une situation et nous disons « Ah, mais j'ai été forcé de faire telle chose. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne veux pas perdre telle ou telle chose. Je ne veux pas être considéré comme quelqu'un qui a ruiné la situation. Je ne veux pas être quelqu'un qui soit méprisé à cause de cela. » Et alors nous souillons notre fourrure. Nous souillons cette fourrure blanche immaculée. Que cela, comme nous l'avons entendu de Pasteur Stegen, que nous soyons préoccupés à ne rien laisser entre le Seigneur et nous-mêmes, dans notre relation, que cette relation soit pure. Voilà ce qui est important, voilà le cœur du problème. Alors, pour continuer, j'aimerais que nous puissions lire un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Donc, un passage dans 2 Corinthiens 12. Ma femme toujours me rappelle qu'il faut que je fasse des prédications courtes. Mais ce matin, elle ne m'a rien dit. Alors, vous m'excuserez si je suis un peu plus long que d'habitude. Parce qu'il y a tellement de choses sur mon cœur. Alors, lisons ce passage, 2 Corinthiens 12. Verset 6. Donc, 2 Corinthiens 12, verset 6. « Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que... » Pardon. Donc, non, il a commencé au verset 1er. Non, recommençons, pardon. 2 Corinthiens 12, verset 1. « Faut-il se vanter ? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. » Verset 2, chapitre 12. « Je connais un homme, un chrétien, qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps, je ne sais, ou sans son corps, je ne sais, mais Dieu le sait. » Verset 3. « Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter, parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. » Dans d'autres versions, il est dit des paroles ineffables qu'on ne saurait répéter. Verset 5. « Au sujet d'un tel homme, je me vanterai. Mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. » Verset 6. « Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. » Verset 7. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9, « Mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je ne me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Verset 10, « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Verset 10, je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Nous lisons jusque-là, chapitre 12, 1 à 10. Le premier point, lorsque j'ai lu ce passage, la note, premier point qui m'a frappé, c'est noter avec quelle prudence Paul parle. Quelle en soit la raison, il y a une prudence à parler. Parler de ses expériences, parler de ce qui lui a été révélé, ce qu'il a même vu. Il parle même de la manière de, en disant, je connais un homme. Beaucoup des commentateurs, la plupart, disent que c'était lui-même, il parle de lui-même. Et pourtant, il écrit en disant « Je connais un homme ». Et il rappelle quelque chose de vécu 14 ans auparavant. C'est la première fois dont on entend parler dans ses lettres. Et peut-être parce que Dieu l'amène à en parler désormais dans ce passage, mais il en parle avec prudence. Il y a un besoin de prudence de parler au mauvais moment. Ma première pensée a été, combien de fois est-ce que nous ne parlons pas trop vite? Combien de fois nous nous mettons dans une situation où nous parlons et une fois que nous avons parlé, nous nous disons « Aïe, si j'avais attendu de parler, si j'avais pas parlé si vite. » Bien sûr, il n'y a pas de règle. Nous disons dans la Bible comment quand Jésus a fait des miracles, parfois, Jésus a dit certains miracles, il a dit à la personne « Va et raconte-le, dis-le à tous. » Et parfois, Dieu te révèle quelque chose et te demande, te dit d'en parler, de le partager. Et si tu ne le fais pas, alors tu pèches par désobéissance. Mais parfois, Jésus a fait des miracles et aux personnes qu'il a aidées, il a dit « Va, mais ne dis rien à personne. Ne dis rien, tais-toi. » Donc, il y a des temps où le Seigneur peut révéler des choses et ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment choisi pour en parler. Je me rappelle de Tante Kay, la femme de Pasteur Steger, qui disait « Dieu peut parfois te révéler quelque chose, mais cela s'adresse à toi. Dieu te parle directement à toi. » Ce n'est pas toujours comme ça, mais le Seigneur parfois te parle et tu seras jugé, toi, sur ce que le Seigneur t'aura donné, sur ce que le Seigneur t'aura dit. D'autres fois, nous lisons dans la Bible quand Jésus a fait un miracle, où Jésus a dit à certaines personnes à qui il avait fait un miracle, « Va, ne le dis à personne, mais va te montrer au prêtre. » Donc, il peut y avoir des choses, le Seigneur nous révèle, nous voyons quelque chose et nous ne devrions pas en parler. Nous devrions n'en parler que aux prêtres. Un homme de Dieu, afin que nous puissions prier ensemble, que nous puissions demander conseil. Parfois, le Seigneur peut nous montrer quelque chose. Peut-être nous voyons quelque chose. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de courir vers notre voisin et de raconter ce que nous avons vu. Si nous ne le faisons pas avec prière, de manière considérée, sans partager avec un homme, une femme de Dieu, combien de fois est-ce que nous ne faisons pas les choses de travers ? Quel que soit le cas, quel que soit le scénario, lorsque nous parlons, quoi que ce soit, ce que le Seigneur nous a révélé, ce que la personne nous raconte, quoi que nous disions, assurons-nous constamment que ce que nous disons est en ligne avec la volonté du Seigneur. La Bible nous enseigne, nous devrons rendre compte pour chaque parole. Que ce soit une parole dite par ma bouche, que ce soit des paroles tapées avec les doigts, ou quoi que ce soit que nous exprimons, nous devrons rendre compte. Vous n'avez pas besoin de rechercher, mais Dieu, Jésus, Jésus le dit lui-même dans Matthieu 12, verset 6. Je vous le dis, que nous devrons rendre compte pour chaque parole. Peut-être tu te dis, mais je voulais dire la chose, j'y ai pensé. Donc la parole nous dit chaque parole vaine. En anglais, c'est chaque parole sans pensée. Par ta parole, tu seras libéré, tu seras justifié. par ta parole, tu seras condamné. C'est nos paroles qui vont nous condamner. Si nous disons ce que le Seigneur ne veut pas que nous disions, c'est Matthieu 12, verset 36. Assure-toi que ce qui t'arrive aux oreilles, ce qui arrive à ton esprit, soit dit de la bonne manière, soit dit au bon moment. Si c'est de la pourriture qui est arrivée à tes oreilles, alors va voir un homme de Dieu. Raconte, partage ce que est venu à tes oreilles afin que vous puissiez prier ensemble. Vous, parents, il y a certaines conversations entre adultes, des conversations entre un mari et une femme, entre une femme et un mari, des paroles qui ne sont pas faites, qui n'ont pas à être entendues par les enfants. Ne chargez pas vos enfants avec des fardeaux qu'ils sont incapables de porter. Des paroles qui ne sont pas faites pour leurs oreilles. Vous ainsi chargez vos enfants. Vous les chargez avec des conversations d'adultes, avec des sujets d'adultes, des choses qui sont trop lourdes à porter. Un autre avertissement que Paul nous donne est un avertissement en rapport avec l'orgueil, être orgueilleux. C'est peut-être pour cela qu'il parle de cette manière, quand il dit « Je connais un homme », donc sans se citer, sans parler à la première personne. Et il dit lui-même, je ne me vanterai pas au sujet d'un tel homme, je me vanterai. Mais il est conscient qu'en parlant de ces choses, il court le risque de devenir orgueilleux. L'orgueil est un péché terrible. L'orgueil représente les prémices, la racine de tout le péché, de tous les maux. Souvenez-vous, lorsque Satan, Lucifer, a voulu pour lui l'honneur et la gloire qui étaient réservés à Dieu. Souvenez-vous, le Satan était un ange du ciel. Mais lorsqu'il a voulu prendre ce qui appartenait à Dieu et qu'il a voulu s'accaparer, il a voulu pour lui, alors l'orgueil est entré, il est devenu orgueilleux. Et c'était le début du péché. Proverbe 16, 5. Je lis, il lit la version amplifiée et dans la version semeur, il est dit « Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. » Proverbe 16, 5. En anglais, il est dit « Tout homme orgueilleux dans son cœur est en horreur à l'Éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. » Donc cette parole nous dit « Dieu est les orgueilleux, est l'orgueilleux. Si nous prenons ce qui appartient à Dieu, alors nous devenons orgueilleux. » si nous nous mettons en avant
plus
que ce que nous ne sommes, alors nous devenons orgueilleux. Si pensons que c'est grâce à nous que les choses arrivent, alors nous devenons orgueilleux. Si nous nous accaparons l'honneur sans le rendre à Dieu, alors nous devenons orgueilleux. Alors écoutez ce que Spurgeon a dit. Maintenant, observe, si Paul était dans un tel danger, alors nous ne pouvons pas penser être hors d'atteinte. Parce que Paul était en lui-même un homme saint, au sens où il avait un témoignage. Il était éminemment humble. Éminemment veut dire beaucoup. Donc Paul était un homme humble, un homme sage, était un homme expérimenté. Et bien qu'il ait connu les honneurs terrestres, il n'est pas devenu orgueilleux. Même au contraire, il a considéré ces choses comme une perte. Lorsqu'il a tout accompli, il a dit, écrit, qu'il se considérait comme le plus petit et qu'il se considérait comme le moindre des apôtres, le moindre des serviteurs de Dieu. Et pourtant, pour tout cela, il était en danger d'être élevé aux yeux des hommes. Et combien n'est-ce pas un danger pour nous qui n'avons pas un tel jugement comme Paul pouvait l'avoir. Je résume, mais Spurgeon continue en disant: il y a un orgueil qui s'est introduit dans la vie d'un certain nombre d'hommes, que cela transpire dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils accomplissent. Par exemple, être facilement agacé lorsque on ne reconnaît pas quelque chose qui est bien fait. Donc par exemple, quand tu fais quelque chose de bien et cela n'est pas reconnu, cela n'est pas mis en avant, alors on devient agacé, irrité. Spurgeon écrit: cela est de l'orgueil. Je continue à lire ce qu'il dit. Être irrité. Être irrité par le comportement de quelqu'un qui semble s'opposer à eux, même si cette personne n'est peut-être même pas consciente de donner l'impression de s'opposer. Donc, par exemple, nous pensons, oui, tout doit tourner autour de moi-même. Mais pour certains, la tentation de l'orgueil vient d'une manière plus subtil. Spurgeon écrit: ces personnes qui ont une connaissance spirituelle plus profonde, qui ont connu des choses. Donc, il écrit en disant: tu peux être spirituel, le Seigneur peut faire quelque chose pour toi, peut accomplir quelque chose par toi. Et alors tu en deviens orgueilleux. Peut-être tu regardes l'autre et tu te dis, ah, merci Seigneur que je ne suis pas comme celui-là. Merci que j'ai vécu plus de choses. Et alors, l'orgueil est au coin de la rue, on pourrait dire. Au coin du... Si Dieu t'accorde du succès pour sauver des âmes, est-ce que nous ne devrions pas nous réjouir? Non, cela serait un péché de ne pas nous réjouir, de remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Mais ce serait un péché d'en devenir orgueilleux, d'en devenir, de se vanter d'un tel accomplissement. Dieu est bon, Dieu nous accorde de la bonté, il fait pour nous bien au-delà de ce que nous méritons même, mais sache que le diable sera là et il essaiera de nous attraper avec l'orgueil, de nous faire tomber avec l'orgueil. Souviens-toi, c'est l'action du Seigneur, c'est Dieu qui agit, mais Dieu peut arrêter cette action comme il veut. Continue à lire. Prochain point, verset 7. Dans verset 7. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve, telle une écharde qui tourmente mon corps. Donc il parle d'une écharde dans le corps, quelque chose de douloureux, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est là jour et nuit. Si je me tourne d'un côté, cette écharde est là. Si je me tourne de l'autre côté, cette écharde est toujours là. Toujours là. Et ça fait mal. Si je bouge, cette écharde me fait mal. Et nous souhaiterions que cette écharde ne soit pas là. Si seulement je pouvais ne pas avoir cette écharde. Et nous pouvons dire, peut-être même, nous pouvons dire, ah, si je n'avais pas cette écharde, je pourrais encore mieux servir le Seigneur. Si je n'avais pas cette écharde, je pourrais être enflammé pour le Seigneur. Si cette personne ne m'avait pas tenté, ne m'avait pas influencé, je n'aurais pas péché. Si seulement les autres m'acceptaient, alors je pourrais vivre pour le Seigneur. Mais Dieu a donné à Paul une écharde pour, il est dit, le tourmenter jour et nuit. Qu'est-ce que cette écharde fait? Cela a amené Paul à genoux. Toute chose qui nous amène à prier est une bénédiction. Voilà la première bénédiction de telle difficulté. Cette écharde l'a amené à crier à Dieu. Elle l'a amené à prier toujours à nouveau. Et à crier à Dieu. Nous pouvons être relâchés dans notre vie de prière lorsque tout va bien. Nous savons bien, quand tout va bien, quand tout coule, alors notre vie de prière en souffre. Mais lorsque nous sommes confrontés aux difficultés, alors notre vie de prière augmente. Et il arrive que lorsque nous prions pour certaines choses, Dieu entend nos prières. peut-être nous allons nous associer avec un homme de Dieu. Nous prions et alors Dieu fait un miracle. Et c'est bien s'il en est ainsi, cela doit rester ainsi. Mais pour certaines choses, il peut en être différemment. Paul a dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur. Rappelez-vous l'importance de la prière et lorsque Jésus a prié dans le jardin de Gethsémané, il est dit qu'il a prié 3 fois en priant en disant « Père, éloigne de moi cette coupe ». Et après la 3e fois, Jésus a réalisé « Non, il doit en être ainsi ». Paul aussi ici écrit, dit « J'ai prié par 3 fois ». Peut-être à ce moment-là qu'il a compris que les choses doivent en être ainsi. Pour mon propre salut. Il continue, dit « Le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit ». La grâce est un don immérité, quelque chose que nous ne méritons pas. La grâce est le don de Dieu dans le salut immérité des hommes. Jésus ou le Seigneur dit à Paul, « Ma grâce te suffit ». C'est tout ce dont il avait besoin. Dieu accorde grâce à ceux qui en sont dans le besoin, qui viennent à lui en criant à l'aide. Alors la grâce nous donne la puissance pour annoncer l'Évangile, pour supporter l'épreuve, pour supporter même les persécutions et persévérer même dans les persécutions. Il y a certaines choses, des difficultés, des défis, des troubles dans nos vies qui sont là, que Dieu permet pour notre bien. Paul dit, il m'a été donné une écharde. En anglais, il est dit un messager de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Alors, soulignez chaque mot. Il dit, Paul dit, Dieu m'a imposé une écharde. Paul ne l'écrit pas en disant, une écharde m'a été infligée. Il dit, en anglais, il dit, Dieu m'a donné une écharde, comme un cadeau. Voilà, enfant de Dieu, voilà il n'y a pas de meilleur cadeau que n'est pas de plus beau cadeau que la marche quotidienne, l'épreuve quotidienne, à savoir de porter sa croix quotidiennement. Et c'est un cadeau que Dieu nous donne pour notre bien. Peut-être Paul n'a pas vu, réalisé que cette écharde était un cadeau. Mais après avoir reconnu que cette écharde lui permettait d'apprendre la patience, alors il a reconnu cette écharde comme un cadeau qui le rapprochait du Seigneur. Toi qui es soumis à l'épreuve, que tu puisses un jour réaliser aussi cela. Il y a certaines choses dans nos vies, quelle qu'en soit la difficulté, des choses difficiles qui sont pourtant faites pour notre bien. Peut-être c'est quelque chose qui est permanent, des choses qui peuvent être pour un certain temps. Cela peut être même une suite d'épreuves durant un temps donné. Ne désirons pas d'être complètement délivrés de toute épreuve, parce que si c'est Dieu qui l'a décidé ainsi et qui le trouve juste, les épreuves sont plus que nécessaires, plus que nous pouvons le penser. Sachons aussi que nous ne devons pas envier les autres chrétiens. Nous n'avons pas regardé aux autres chrétiens. Lorsque nous rencontrons un frère qui se réjouit, qui est béni du Seigneur, alors ne pensons pas que le chemin parcouru l'a été sans épreuve ou a été facile. Je me rappelle comment j'ai rencontré une fois un homme qui m'a raconté comment sa mère lui a appris quelque chose. Elle lui a dit, si chaque personne dans le monde pouvait aller, si tout le monde, tous les gens du monde pouvaient aller au même endroit, et chacun pouvait voir, réaliser la croix que porte son voisin, chacun pouvait voir le montant de difficultés que chacun pouvait voir, et s'il y avait la possibilité alors d'échanger sa croix avec qui que ce soit, alors sa mère lui avait enseigné à cet homme, chaque personne retournerait à la maison avec sa propre croix. Personne n'échangerait. Si je peux voir réaliser les difficultés de mon voisin, alors je suis amené à remercier le Seigneur pour mes propres difficultés. Merci Seigneur que tu m'aies donné ces difficultés, ces épreuves pour mon propre salut. Je ne sais pas quelle est l'écharde dans ta chair. Je ne sais pas ce qui te préoccupe jour et nuit, cela peut être n'importe quoi, cela peut être la maladie. Combien de fois nous ne lisons pas dans l'histoire des hommes de Dieu, combien ils ont souffert de maladies. Nous ne le comprenons pas. Mais Dieu le sait, Dieu en est conscient. Peut-être avons-nous du souci pour des gens qui sont proches de nous, pour de la famille. Peut-être est-ce un handicap. Peut-être nous disons, ah, si Seigneur, Seigneur, si seulement je pouvais parler, mais j'en suis incapable. Mais peut-être le Seigneur veut que tu parles pour lui malgré ton handicap. Les épreuves peuvent être aussi des tentations. Les chardes peuvent être une tentation. Des tentations sont réelles. Et c'est quelque chose qui est le lot aussi de chrétiens expérimentés. Une fois, j'ai demandé au pasteur Stegen, à Oncle Erlo, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de tentations? C'est réel, c'est véritable. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Et il m'a répondu, même si la tentation se présente 100 fois dans la journée, alors résiste-y 100 fois. Voilà ce qu'il m'a répondu à l'époque. Peut-être ton écharde est l'échec. Ah, les perfectionnistes, c'est quelque chose vraiment qu'ils ont du mal avec. Perfectionnistes, ils ont du mal avec l'échec. Mais parfois, le Seigneur utilise cela. Je ne parle pas de l'échec lorsque tu pêches et qu'on fait des choses qui sont, où l'échec est la conséquence de choses mauvaises que nous avons faites. Mais parfois, l'échec peut être présent dans notre vie. Et alors, nous devons servir le Seigneur de tout notre cœur, malgré l'échec. Pasteur Stegen a dit une fois, le caractère et la capacité d'un soldat n'est jamais reconnu, n'est jamais visible en temps de paix. Si nous sommes des soldats dans le royaume de Dieu, alors le diable va attaquer. Il y aura des difficultés. Mais c'est là alors que la lumière doit briller, notre lumière doit briller. C'est là, à ce moment-là, que la force du Seigneur doit être révélée en nous. C'est là, à ce moment-là, que nous pouvons être capables, nous devons être capables de dire, malgré ces difficultés, je veux continuer à servir le Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, alors je ne sais pas comment nous pourrons nous tenir debout au jugement dernier en étant à côté des grands héros de la foi. Et nous serons là en nous tenant, en disant « Ah, je n'ai pas pu, je n'y suis pas arrivé à cause de cette petite chose. » Comment est-ce que je pourrais alors leur expliquer que j'ai perdu mon tempérament, que je me suis mis en colère à cause de cette chose? Pourquoi je me suis irrité? Pourquoi j'ai fait le mauvais choix? Pourquoi je n'ai pas pu vivre pour le Seigneur à cause de cette petite chose? Et alors nous aurons honte lorsque nous réaliserons ce que eux ont dû traverser. Et lorsque nous réaliserons que ce que moi j'ai dû traverser, c'était rien en comparaison. Une écharde peut être juste une petite écharde de bois, toute minuscule, mais qui est là constamment. Alors, prenons garde de ne pas faire de mauvais choix, de ne pas faire de mauvaises choses à cause des circonstances. Ah, peut-être nous disons, « Ah, si nos ennemis arrêtaient de nous attaquer !» Alors, nous servirions le Seigneur de tout notre cœur. Peut-être le Seigneur l'a permis. Il l'a permis, en fait. Peut-être qu'il permet que les gens te critiquent, qu'ils te médisent, quelle qu'en soit la cause. Mais nous devons le servir de tout notre cœur, quelles que soient les circonstances. Nous n'avons pas d'excuses. Je terminerai avec l'histoire suivante. Il y a des années en arrière, dans le nord-est des États-Unis, il y avait une industrie florissante de poissons. Il y avait un gros marché pour la morue, spécialement sur la côte ouest des États-Unis. Donc, on attrapait les morues dans l'océan Atlantique, sur la côte est, et alors ces morues étaient transportées à travers les États-Unis pour être vendues sur la côte ouest. Et la demande posait un problème. Parce que le problème du transport, il y avait un problème de transport. Parce qu'au début, donc, on a congelé ces morues après les avoir attrapées. On congelait les morues, mais le problème, c'est que la congélation enlevait l'arôme, le goût de la morue. Elle n'était plus aussi bonne. Alors, ils ont essayé différentes techniques en les transportant de manière vivante. Donc, ils les mettaient dans des réservoirs avec de l'eau de mer et mettaient les morues dedans vivantes. Mais c'était encore pire. Alors, ils ont essayé toutes sortes de techniques pour transporter ces morues de la côte est à la côte ouest. Donc, ils ont essayé différentes techniques pour qu'elles soient aussi fraîches à l'arrivée, aussi bonnes que lorsqu'elles avaient été attrapées. Mais tous les essais ont échoué. Le morue perdait son arôme et en plus la texture de la morue se dégradait. Donc d'une morue bien fraîche et ferme, elle devenait toute molle et arrivait en bouillie à l'arrivée. Et alors l'industrie était affectée à cause de cela. Finalement, une personne créatrice a réussi à résoudre ce problème d'une manière totalement créative et inattendue. Et alors, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont transporté les morues dans des réservoirs, dans des bidons, en les laissant avec leurs ennemis. Donc, ils ont cherché quel est l'ennemi de la morue. Et alors, ils ont fait transporter ces morues avec leur ennemi, le poisson-chat. Donc, dès le départ sur la côte est, donc dès leur mise en bouteille, on pourrait dire, ou quand ils ont mis les morues dans des réservoirs, ils ont mis avec leur ennemi le poisson-chat, et dès le départ sur la côte est jusqu'à l'arrivée, les morues ont dû se battre ou échapper à leur ennemi, le poisson-chat. Alors écoutez cela. Lorsque la morue arrivait sur la côte ouest, sur le marché, les morues étaient aussi fraîches que lorsqu'elles avaient quitté la côte est et aussi bonnes que lorsqu'elles avaient quitté la côte est. Il n'y avait pas de perte de goût. La texture du poisson n'était pas affectée. S'il y avait quelque chose à noter, c'est que, en fait, même la qualité était meilleure. La morue était meilleure à l'arrivée qu'au départ. Chacun d'entre nous est dans un réservoir avec des circonstances difficiles. Mais à part ces circonstances voulues par Dieu, ces difficultés nous permettent de rester des morues alertes, combattantes et de meilleure qualité. C'est le plan de Dieu pour nous, afin de nous sculpter, de nous rendre plus semblables à son Fils. Il y a certaines choses dans nos vies que Dieu permet. Il y a certaines difficultés que le Seigneur permet dans nos vies. Mais nous devrions le servir encore de manière plus zélée. Ces circonstances, ces difficultés ne devraient jamais nous empêcher de le servir de tout notre cœur. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas prier pour que le Seigneur enlève ces difficultés. Mais ces difficultés, certaines de ces difficultés, sont là pour notre bien. Et nous pouvons alors prendre ces circonstances avec nos deux mains et les utiliser pour aller de l'avant, pour nous rapprocher de notre Seigneur, afin de ressembler de plus en plus à lui. Que nous puissions utiliser toutes circonstances, tout ce qui nous est servi sur l'assiette, que nous puissions y faire face afin de ressembler au Seigneur de plus en plus. Et sachons aujourd'hui, quelle que soit la difficulté, nous n'avons pas d'excuses. Nous ne pouvons pas dire au Seigneur, « Oh, je n'y arrive pas à cause de cela, de cela, de ceci. » Et un jour, lorsque nous serons face à face, lorsque nous présenterons devant lui, alors nous réaliserons et nous pourrons dire, « Seigneur, c'était le meilleur. C'était ce que tu as voulu pour moi. » Maintenant, je comprends pourquoi. Alors, servons-le de tout notre cœur. Merci.
Friends, I don't know whether you had the same sensation I had as I listened.
Mes amis, je ne sais pas si vous avez eu la même sensation que j'ai eue moi en entendant ce que nous avons entendu. Pour moi, j'avais l'impression que nous tenons sur un lieu saint. Ce que nous avons entendu n'est pas une blague, ce n'est pas quelque chose, une plaisanterie. Si Dieu humilie, c'est quelque chose de terrible. Tu ne peux pas en échapper. Tu ne peux pas trouver des excuses. Tu ne peux pas te cacher. Si Dieu décide d'humilier quelque chose, c'est un processus terrible, douloureux. Et pourtant, je pense que l'orgueil est le péché le plus commun dans lequel nous tombons. De mépriser les décisions que font les autres, leurs connaissances, leur manière de faire, et de les regarder de haut, par exemple. Si tu as quelque chose de cela dans ton cœur, alors sache que tu es en train de mettre les choses en place pour connaître quelque chose de terrible. Certains prient en disant « Seigneur, rends-moi, apprends-moi l'humilité, rends-moi humble. » Sache que c'est une prière dangereuse. Je ne dis pas que c'est quelque chose que nous ne devons pas prier, mais sache, si tu es, sois conscient que si tu pries en disant « Seigneur, apprends-moi à être humble, rends-moi humble », alors peut-être que nous ne réalisons pas ce pourquoi nous prions réellement. Parce que Dieu va le faire si nous prions. Et lorsqu'il le fait, alors tu vas peut-être passer par quelque chose où tu ne vas même pas réaliser que les circonstances viennent de Dieu. Alors tu seras, tu te souviendras de ce verset qui dit combien il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Oui, bien sûr, ce verset fait référence à la condamnation, au jugement. Mais lorsque Dieu te fait passer par ce processus pour te libérer, pour te débarrasser de l'humilité, de l'orgueil, alors sache que ce verset s'applique aussi. Ce verset qui dit combien il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Et très souvent, le Seigneur va te laisser peut-être prier pour cela pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, pendant des années. Avant de commencer à répondre à cette prière. Et lorsque cela arrive, lorsque l'eau commence à bouillir dans le pot de Dieu, dans la bouilloire de Dieu, lorsque la bouilloire de Dieu se met à bouillir, alors tu n'as qu'une envie, c'est d'en sortir, c'est de t'échapper de cette bouilloire, de cette casserole. Tu n'as qu'une envie, c'est d'en sortir, d'en t'échapper. Et peut-être tu te souviens à ce moment-là, mais attends, c'est ce pourquoi j'ai prié pendant 5 ans, 10 ans. Et parfois, le fait que tu aies dû attendre pendant si longtemps, c'est ce qui t'a permis de rester dans ce pot. Dans ce pot que Dieu utilise pour t'apprendre l'humilité. Et cela me rappelle les paroles du Seigneur Jésus lorsque ce qu'il a dit avant d'aller à la croix. Parce que lorsque Dieu commence à t'humilier, à t'apprendre l'humilité, alors tu as envie de prier la même chose. Parce que Jésus a dit, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémané et qu'il a dit « Seigneur, libère-moi de cette heure, sauve-moi de cette heure. » Parce que ces circonstances, tu te retrouves, dans lesquelles tu te retrouves, tu n'as qu'une envie, c'est de crier en disant « Seigneur, libère-moi. » Mais le Seigneur Jésus a prié 3 fois et la 3e fois, il a prié en disant « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. » Mes amis, l'orgueil est un monstre. Mais il y a peu de personnes. Je Laissez-moi répéter, il y a peu de personnes qui restent dans le pot de Dieu, dans la casserole, dans la bouilloire de Dieu, lorsque Dieu commence à s'occuper de ton orgueil, à t'humilier. Et pourtant, cela doit arriver. Dieu doit s'occuper de cet orgueil dans notre vie, dans notre cœur. Peut-être juste ce petit regard de mépris envers quelqu'un qui fait quelque chose de travers. Je l'ai moi-même vécu d'une petite manière. Il y a des années en arrière, Dieu m'a humilié. Et à partir de ce jour, je n'étais plus intéressé ou je ne faisais plus attention à ce que faisaient les autres en faisant les choses de mauvaise manière. Donc je n'étais plus intéressé de juger les faits des autres. Ce n'était pas autant que Paul, ou comme Paul l'a dit, où il a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Ce n'était pas à cette hauteur. Mais à partir de ce jour-là, j'ai perdu l'intérêt pour juger et pour regarder et relever les stupidités faites ou les choses faites par ceux autour de moi. Parce que j'étais moi-même tellement convaincu de mon propre orgueil, de ma propre folie. Alors, mes amis, crions à Dieu, crions qu'il nous fasse grâce. Ce strignon de ce matin, ne la prenons pas à la légère, ne prenons pas ce message à la légère, parce que ce n'est pas une plaisanterie, c'est quelque chose de sérieux. Si Dieu n'agit pas, si Dieu ne prend pas ce problème à bras-le-corps, alors nous continuons la vie avec quelque chose dans le cœur qui nous fera chuter. Mais si Dieu s'occupe de ce point, alors ce n'est aussi pas une plaisanterie. Donc je voudrais exprimer mon remerciement pour ce message. Il a rappelé au début comment dans certaines églises, le pasteur montait en chair et s'arrêtait en priant. Et ça me rappelle l'histoire du petit garçon à l'église et il a demandé à sa mère en disant « Mais maman, pourquoi le pasteur fait comme ça ?» Et sa mère lui a répondu en disant « Mon garçon, le pasteur prie pour que Dieu l'aide. » Et le garçon a répondu, « Mais maman, pourquoi est-ce que Dieu ne l'aide pas ?» Et si je peux m'exprimer, Dieu a répondu à ta prière. Nico, que ce que nous avons entendu ce matin puisse nous accompagner durant la semaine. Prions ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous de notre propre orgueil. Nous demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.